Les 48 heures de l'agriculture urbaine, ça commence aujourd'hui et c'est ce week-end le 14 et 15 mai. C'est un événement national coordonné par l'AFOP, Association française de l'agriculture urbaine professionnelle, auquel participent 18 villes en France. Et ce soir, à Marseille, c'est la soirée d'ouverture à la Cité de l'agriculture, 6 Square Stalingrad à 19h. Dans le studio marseillais, on accueille deux personnes qui participent à l'organisation de ces 48 heures de l'agriculture urbaine dans la ville. Chloé Leroy, qui travaille à la Cité de l'agriculture, et Pascal Fonrose du Bouillon de Noailles. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine à Marseille? En tout cas, comment cette agriculture se développe en milieu urbain?
Alors l'agriculture urbaine, ça peut prendre vraiment diverses formes. A priori, la première chose qui me vient à l'esprit quand je parle d'agriculture urbaine, c'est les fermes urbaines. Mais ce n'est pas la seule forme. Il y a aussi tout ce qui est jardin partagé, jardin collectif, les jardins qu'on va potentiellement retrouver dans des structures privées, donc les jardins des particuliers ou dans les centres sociaux. Donc l'agriculture peut prendre diverses formes. À Marseille, c'est surtout une agriculture urbaine liée au maraîchage, pas tant à l'élevage ou à d'autres formes. Mais donc c'est vraiment quelque chose qui peut prendre des formes différentes.
Et à Marseille, il s'avère qu'il y a beaucoup de lieux qui se préoccupent de cette question-là. Dans l'événement, il y a 35 lieux qui sont un peu rassemblés pour proposer des ateliers, des conférences, et notamment des fermes urbaines, des jardins partagés. Alors la Cité de l'agriculture, elle fédère donc toutes ces assos, toutes ces structures, et elle organise cet événement. Qu'est-ce qu'elle vient apporter sur le territoire? Est-ce que vous pouvez présenter son objet et qu'est-ce qu'elle fait ici à Marseille?
Alors la Cité de l'agriculture, c'est une association qui existe depuis 2015. Donc c'est, comme vous le dites, une association qui est marseillaise. Donc elle existe depuis 2015, mais c'est que depuis 2018 qu'on commence vraiment à se développer avec donc les statuts financiers, avec les premiers employés. Et maintenant, on est une vingtaine de personnes. Donc l'objet de la Cité de l'agriculture, c'est de promouvoir la transition écologique des villes. Et c'est quelque chose qu'on n'envisage pas sans les questions de justice sociale. Pour ce faire, on s'appuie principalement sur deux outils, que sont donc l'agriculture urbaine et l'accès à l'alimentation durable. Donc aujourd'hui, on développe une vingtaine de projets qu'on a répartis à peu près dans 4 pôles. Donc le premier pôle, ça va être le pôle Agora. C'est un pôle qui vise à faire lien, donc soit avec les professionnels, donc avec la Fédération du réseau d'agriculture urbaine de Marseille, et aussi avec des événements. Donc des événements qui sont destinés aux professionnels, mais aussi aux particuliers. C'est notamment le cas des 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc ça, c'est le premier pôle, le pôle Agora. On a aussi le pôle terrain, qui vise un peu plus à expérimenter, notamment avec le développement de la ferme urbaine Capri, qui est une ferme située dans les quartiers nord, que la Cité de l'agriculture a créée il y a de ça un an. C'est une ferme qui vise à la fois à faire de la production maraîchère, à sensibiliser et aussi à documenter donc, les pratiques pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut améliorer. On a aussi d'autres actions de terrain, comme notamment l'action du réseau VRAC, qui est un réseau d'achat groupé, qui est aussi, comme les 48 heures, en fait, quelque chose de national et qui est porté au niveau local par la ville de Marseille, enfin par la Cité de l'agriculture à Marseille. Et donc, fort des actions qu'on va mener dans le pôle terrain et le pôle Agora, on va développer donc le troisième pôle, qui est le pôle transmission, qui vise à transmettre les savoirs qu'on aura acquis précédemment, et donc notamment avec donc des formations, soit aux professionnels avec des ateliers, mais aussi aux professionnels avec un incubateur d'accès à l'alimentation durable qui est potentiellement à développer dans les prochaines semaines. Et actuellement, on a aussi surtout un incubateur agriculture urbaine. Donc,
Et l'idée, c'est aussi de créer un tissu associatif de tout ce qui existe déjà. La Cité de l'agriculture arrive à amener du coup plusieurs assos. Le Bouillon de Noailles, qui est aussi représenté aujourd'hui par Pascal. Bouillon de Noailles qui s'est aussi saisi de cette opportunité des 48 heures de l'agriculture pour proposer un atelier. Alors, le Bouillon de Noailles, qu'est-ce que c'est? Et le lien avec cette alimentation durable aussi, le focus qui est fait ce week-end?
Mais le Bouillon de Noailles, c'est une association qui est aussi récente, qui a 2 ans, qui a pour but justement de favoriser l'alimentation et la cuisine aussi. Comme son nom l'indique, on est situé à Noailles. Et le but, c'est de faire profiter les familles du quartier, mais aussi du Grand Centre-Ville sur la question de l'alimentation et de la cuisine. Ce qu'on fait également, c'est qu'on est en entreprise d'insertion. Donc on fait aussi plein d'ateliers de rue autour de la cuisine. On fait également des repas de quartier gratuits, on anime également des repas traiteurs où là on met des personnes en situation d'immersion professionnelle avec un chef ou une chef qui encadre une brigade, comme on appelle ça en cuisine. Et l'idée, c'est ensuite aussi permettre à ces personnes, en plus de découvrir un univers culinaire, de se former, en tout cas de s'initier au service. On publie également une revue qui s'appelle Ingrédients, où là c'est une rencontre entre des auteurs, autrices et jeunes illustrateurs et illustratrices autour d'un sujet choisi. Et là, il y a une rencontre qui se fait avec les habitants et les habitantes du quartier. Et en fait, c'est un prétexte à portrait où les gens ont du mal à parler d'eux-mêmes, mais ils ont beaucoup plus de facilité à parler de cuisine. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a déjà 9 numéros autour de divers sujets comme l'aubergine, comme les coiffeurs, parce qu'à Noailles, il y a plus d'une quarantaine de coiffeurs. Il y a également un numéro sur le pain, sur le bar du peuple pour les connaisseurs du quartier de Noailles, qui est un bar assez emblématique. Mais le projet de base quand même du Bouillon Noailles, c'est l'ouverture d'un restaurant solidaire à double tarification qui va se transformer en ouverture d'un tiers-lieu qui sera autour de l'alimentation, qui permettra d'accueillir des personnes en chantier d'insertion pour leur apprendre une passerelle à la professionnalisation culinaire. Mais ce sera aussi un lieu de rencontre avec les différentes structures, associations du quartier pour pouvoir discuter de l'alimentation, parce qu'on a remarqué que c'était quand même un sujet fragile, mais à la fois fédérateur et sans frontières, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et aussi tous les portefeuilles.
Pourquoi un sujet fragile ?
Pourquoi un sujet fragile ? Parce qu'on se rend compte que c'est un accès qui parfois peut être délicat, qui peut être compliqué, qui parfois est raccourci avec de la, comme on appelle ça, de la malbouffe. Donc du coup, nous, c'était un sujet quand même qui nous tenait à cœur à notre humble niveau, de permettre aux gens d'avoir un accès à une alimentation différente, à découvrir des univers, à découvrir même des techniques de cuisine, comme là on va proposer avec la lactofermentation.
Et oui, parce que la thématique qui traverse l'édition 2022 des 48 heures de l'agriculture, c'est l'alimentation en circuit extra-court. Donc cette alimentation-là, c'est un sujet, une thématique qui rassemble, parce que tout un chacun va se nourrir, mais aussi qui permet d'aller au-delà de ça et de se dire mais qu'est-ce qu'on consomme, comment on le consomme, et de réfléchir à une alimentation saine, peut-être local, et justement, vous, le Bouillon de Noailles, comment est-ce que vous vous fournissez avec quels produits alimentaires, sur quel marché, où est-ce que vous allez acheter les légumes qui vont servir à l'atelier de lactofermentation, par exemple?
Du coup, on n'est pas allé bien loin. On est situé à la rue de l'Arc, au numéro 7 précisément, et on a monté la rue de Bagne, on est arrivé sur le cours Julien. Donc pour cet atelier, donc du coup, qui va être encadré par une personne du coup spécialisée en lactofermentation qui s'appelle Julie Rouen, il nous a été donné comme consigne que pour la fermentation, il était important d'utiliser des produits de saison, des produits bio du coup. Et donc du coup, à Noailles, ça n'existe pas beaucoup, à part d'aller dans des grandes surfaces spécialisées. Mais du coup, on s'est dirigé vers le cours Julien. Marché du cours Julien,
c'est le mercredi matin. Et alors, cette lactofermentation, qu'est-ce que c'est finalement ?
Donc on appelle lacto, pas parce qu'il y a du lait à l'intérieur, en fait c'est simplement de l'eau et du sel non iodé, non filtré. Et ce qui se passe, c'est que l'assemblage d'eau d'un certain pourcentage pardon, de sel avec les légumes ou les fruits qu'on mettra à l'intérieur vont permettre aux acides lactiques de se libérer et donc du coup de commencer ce travail de fermentation.
C'est aussi une manière de conserver ces aliments plus longtemps.
Tout à fait. Nous, on s'est rendu compte au travers d'ateliers justement qu'on a mené avec l'association Destination Famille que en fait la lactofermentation c'est quelque chose qui est assez répandu en fait
dans les pratiques.
Il y a des personnes qui au début quand elles ont entendu le nom ne comprenaient pas ce que c'était, mais au final quand elles ont vu la façon de faire, elles se sont dit ah ben nous aussi on fait pareil avec les citrons, avec d'autres légumes, donc en fait c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes, en fait.
Et alors, cet atelier de lactofermentation, c'est demain, le 14 mai, de 14h à 18h au 7 rue de l'Arc, dans le 1er arrondissement. Alors, c'est gratuit. Et le bouillon de noailles fourni, tablier, eau, sel, légumes.
Les torchons. Ce qu'on demande aux personnes, c'est de venir avec leur bocal. Donc, on préconise l'utilisation d'un bocal le parfait. Parce que en fait, il y a des bocaux qui ressemblent un peu à ceux-là, mais qui sont moins efficaces. Et le parfait, en fait, il est très bien parce qu'il permet du coup au gaz de s'évaporer, mais il ne laisse pas rentrer l'oxygène. Et il y a d'autres marques qui proposent les mêmes types de bocaux, mais qui sont au final pas si efficaces. Donc du coup, ce sera un atelier public, gratuit. Donc l'idée, c'est que avec le cheminement qui s'est fait avec Destination Famille, c'est que les personnes qui ont participé aux ateliers précédents de lactofermentation expliquent ce que c'est, et en support bien sûr avec Julie qui sera là pour donner des détails un peu plus techniques. Et l'idée, c'est ce qu'on a déjà, en fait on a commencé au début de l'année, on a fermenté certains légumes comme du chou, on a fait un achat de légumes, on a fait des citrons, on a fait des carottes également. Et l'idée, c'est qu'avec ces pots du coup qui fermentent depuis le mois de janvier, on propose
une
dégustation gratuite avec un pain au levain qui sera toasté, ce sera très très bon.
Alors cet atelier de lactofermentation, c'est un exemple de ce qui peut être proposé aux 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc c'est pas seulement montrer des personnes qui produisent, qui font du maraîchage, mais c'est aussi impliquer, il y a des librairies, d'autres acteurs du territoire qui vont penser à une alimentation, vont cuisiner ou pas finalement, c'est
oui,
ça.
Exactement, en fait l'objectif avec cette édition des 48 heures et la thématique qu'on a choisie comme tu l'énonçais tout à l'heure, c'était vraiment d'avoir la plus grande diversité possible, tant au niveau des acteurs, des publics et du type d'atelier possible, notamment pour toucher et sensibiliser le plus de personnes possible.
Alors, il y a cet atelier-là, il y a aussi d'autres endroits où on peut aller, le Super Cafouche, la Ferme du Roi d'Espagne, la librairie Montpetit, et je ne peux pas tous les citer puisque c'est au final 35 lieux. Alors, dans ces lieux-là, donc il y a des lieux qui produisent, pour le coup, des légumes ou de l'élevage, mais très peu, vous disiez, et où est-ce qu'on peut trouver ces produits 100% Marseille alors ?
Eh ben, y a différentes fermes urbaines ou jardins collectifs qui produisent à Marseille. Donc il y a notamment la ferme Capri, donc la ferme de la Cité de l'Agriculture, mais il y en a d'autres. Il y a Collinéo, la ferme du Roi d'Espagne, le paysan urbain. Il y a vraiment beaucoup de fermes urbaines à Marseille. Enfin, en tout cas, ça se développe de plus en plus. Il y a le talus aussi. C'est des fermes qui vont avoir différentes formes. Des fois, c'est que des productions maraîchères, comme avec la ferme de l'Étoile. Mais sinon, ça peut être aussi des fermes un peu tiers-lieux, hybrides, avec beaucoup, une grande dimension pédagogique à côté.
Et une idée de transmission. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit reportage sur un de ces lieux, sur Collinéo, justement. À Marseille, l'association Collinéo œuvre en faveur de la biodiversité pour la protection, la préservation et l'éducation à l'environnement. Dans le 13e arrondissement, l'association s'occupe d'un site de conservatoire des restanques, vergers et jardins méditerranéens.
Il y a un petit peu de monde sur toutes les restanques en gros, de faire un petit tour de tout.
On ne dirait pas comme ça.
Le mercredi de 8h30 à 11h30, dans ce lieu au 1 chemin des Grives, des chantiers bénévoles ont lieu. À la suite de cela, une vente de légumes et de fruits est organisée sur place. Agnès Kayser, coordinatrice pédagogique et animatrice environnement, guide la visite de cet écolieu.
Donc on est sur un ancien domaine agricole qui s'appelait le domaine de Parti,
ouais.
Qui est un ancien domaine agricole qui faisait à l'époque 80 hectares, je crois, ou plus même. Et du coup, bon, petit à petit, il y a eu des projets d'immobilier autour. Et l'association Collineau, elle a essayé à récupérer les terrains il y a maintenant 10 ans déjà.
Ouais.
Et on a signé des baux amphithéotiques pour 99 ans d'occupation d'élus. Et en fait, on en a deux. On a la propriété de la Batterelle qui est là-haut, qui est aussi propriétaire, et la ville de Marseille. Donc on a deux baux amphithéotiques. Et il y a 6 hectares de terrain qui ont été préservés avec des restanques qui ont été restaurés.
Les restanques ont été remontées au départ.
Les restanques, elles étaient éboulées.
On
a Lucien qui est en train de travailler à sa restanque.
Le restant, pierre c'est par les murs, pierre. Murs de pierre, du coup.
C'est des murs de pierre. Alors, c'est une technique assez particulière parce que c'est de la pierre, ce qu'on appelle la pierre sèche.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de liant entre les pierres. Donc, il faut choisir chaque pierre, la poser, la caler correctement.
C'est du Tetris, en fait.
C'est un peu du Tetris. C'est bien choisir. Et puis, à la base de la restante, après, il y a des drains qui permettent vraiment la circulation de l'eau aussi.
Okay.
Et ça a pas mal de propriétés sur l'eau, sur la présence de la biodiversité, sur le vent, sur la restitution de la chaleur en hiver.
Les restanques, c'est tout un problème.
Ah bon ?
Ben oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas éternel. Hein ? Parce qu'on pense aux anciens, mais les anciens, ils travaillaient tous les hivers en vérité.
C'était entretenu en permanence. Ils reconstruisaient ?
Oui, puisque quand une restanque commence à avancer, à bouger, il faut tout reconstruire.
Les pierres, vous allez les chercher où ?
Ben, y en a un peu sur place. Et après, ben, on les mendie à droite à gauche.
Ouais.
On arrive à en récupérer, C'est un problème de main-d'œuvre de transport. Les restanques, c'est propre à la Provence. Après, techniquement, ça dépend des cailloux qu'on a. Le beau calcaire blanc, dit l'urgonien, qui est le même, la pierre de Cassis, les calanques, tout ça. Et on a le poudingue, là, qui est du gravier reconstitué, rebétonné.
La partie potager et la partie verger du conservatoire est tout cultivé sur sol vivant, sans intrants chimiques, et avec pas mal de matières organiques qui est associée. Là, on a un tas de fumier qui a été livré il n'y a pas longtemps, avec du paillage aussi pour permettre la non-évaporation de l'eau. Et après, un choix aussi de culture, de variété. Là, on a 14 ou 15 variétés de tomates, avec vraiment des espèces qui poussent dans la Méditerranée pour essayer d'avoir des cultures qui ne sont pas trop consommatrices d'eau, voilà, avec un arrosage en goutte à goutte le moins possible. On veut vraiment travailler sur l'interaction qu'il y a entre tous, c'est-à-dire que bon, on a le potager, on a le jardin d'herbes aromatiques, on a notre verger qui est derrière là-bas, et après on a toute une grosse partie en garrigue qu'on a appelé le jardin méditerranéen, sur lequel on ne veut pas avoir d'impact. Si ce n'est peut-être introduire certaines espèces qui poussent naturellement dans les collines. Et on a créé des sentiers, il y a des panneaux, moi je les vois là, il y a quelques panneaux d'indication qui sont dans nos sentiers. Voilà, on a une ruche pédagogique en bas, on a un rucher aussi à plusieurs endroits sur le site. Voilà, du coup, il y a un équilibre entre tout ça aussi qui se fait sur ce lieu-là, quoi. Et au centre, le magnifique bâtiment bioclimatique qu'on a réussi à faire construire. On peut aller voir un peu le jardin d'herbes aromatiques, là.
Voilà.
Parce que du coup, là, on est sur la restante du jardin d'herbes aromatiques. C'est un jardin qui est entièrement entretenu par les bénévoles. Parce que donc, au sein de l'association Collineau, il y a des salariés, mais il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent plus que nous sur le jardin. Et du coup, voilà, après, chaque bénévole est un peu référent sur certains éléments. Et donc là, il y a Aline qui est dans le jardin d'herbes aromatiques. Et tout l'entretien, la gestion, les récoltes de ce lieu est géré par Aline sur le site, quoi. Du romarin, du thym, de la sarriette, de la lavande, de l'hysope, donc plusieurs variétés, même en thym on a plusieurs variétés, en sarriette aussi. Et là c'est plutôt ce qu'on appelle les herbes, qu'on vend en herbes fraîches.
On aurait dû les cueillir il y a longtemps, mais comme on n'a que deux bras, et qui ne se multiplient pas beaucoup...
À l'inverse des fleurs de basilic.
Mais il a manqué d'eau à un moment donné, donc il est monté en graines.
Bon, ça sent trop bon ici.
Ce sont toutes des plantes médicinales, dont certaines, la plupart, sont condimentaires aussi.
Si vous voulez avoir une vue fantastique, il faut monter où il y a le grand pin là-haut. Mais de là-haut, alors vous voyez aussi la côte bleue, côté l'Estac et tout, hein, à partir du pin.
Là, on est dans le verger, amandier, jujubier, cognassier, grenadier tout au fond. Les figuiers, ils ont 10 ans, on dirait pas comme ça. Après, là, on a un projet aussi de culture dans le verger. C'est aussi ce qu'on appelle les projets d'agroforesterie. Après, bon, on met plein de mots sur plein de choses, mais voilà, l'idée, c'est d'aller cultiver dans le verger pour avoir l'ombre des arbres du verger et permettre d'enrichir le sol aussi pour les arbres du verger et en même temps pour pouvoir cultiver entre autres des courges ou d'autres variétés qui couvrent le sol et qui permet d'éviter du paillage aussi dans le verger, quoi. Ou de l'entretien, d'aller débroussailler au milieu du verger. Donc voilà, c'est la partie oliverée. Où, c'est pareil, on a des bénévoles là, qui entretiennent, qui commencent à défricher. La récolte des olives, en fait, il y a plusieurs techniques. Soit on le ramasse à la main, soit on passe un râteau à l'intérieur et on fait tomber dans les bâches au sol. Donc il faut que le sol il soit propre pour faire ça. Donc voilà, les pieds d'olivier, ils sont là, ils sont embroussaillés. Il y a beaucoup trop de branches. C'est des vieux oliviers, c'est des rejets du gel de 56. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs pieds là. En 2023, c'est les 50 ans de Colinet. On est 7 salariés. Du coup, on a des collègues qui travaillent sur des inventaires sur la faune, sur la flore, dans les milieux naturels. C'est pas que le conservatoire. On a des actions pédagogiques sur différentes thématiques.
Il y a des balades, il y a plein de choses.
Il y a des balades, des projets d'accueil, de visite du rucher, des ateliers pédagogiques autour des insectes, autour des oiseaux. On a pas mal de nichoirs qui sont installés aussi sur place. La partie garrigue et découverte de la flore méditerranéenne, l'adaptation des plantes au climat méditerranéen. On accueille une centaine de classes là, sur le site.
Et à la rentrée, c'est reparti.
À la rentrée, croisons les doigts pour que ça aille bien, quoi.
Vous pouvez retrouver tous les détails des actions de l'association Colinéo et sur les prochains chantiers bénévoles sur le site colinéo.fr ou sur Facebook asso.colinéo. C'était un reportage sur Colinéo. Colinéo qui est un des lieux où se passent les 48 heures de l'agriculture urbaine et on en parle maintenant sur Fréquence Mistral avec Chloé Leroy de la Cité de l'Agriculture et Pascal Fonrose du Bouillon de Noailles. Alors Colinéo, c'est un des lieux où il va y avoir par exemple demain une vente de plantes et découverte de la biodiversité potagère méditerranéenne. Dans le reportage, vous avez déjà pu voir qu'il y a beaucoup de choses qui poussent là-bas. Il y a plein d'autres lieux et la Cité de l'Agriculture en porte un, notamment la ferme Capri. Alors, est-ce que Chloé, tu peux en parler un peu plus précisément de ce lieu-là?
Oui, donc du coup, la ferme Capri, c'est une ferme qui a été développée par la Cité de l'Agriculture il y a de ça un an, enfin, a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an. Et donc, l'objectif de la ferme Capri, c'est à la fois de faire de la production maraîchage, des actions de sensibilisation et des actions plus liées à l'étude et la documentation des pratiques qu'on va avoir sur place. Donc, dans le cadre des 48 heures, la ferme, elle va être ouverte à la fois le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Donc, le samedi après-midi, on va faire des ateliers donc maraîchage et des ateliers plus lactofermentation aussi. C'est un peu le thème du week-end. Et le dimanche, ça va être plus tourné vers le quartier, une sorte de fête de quartier, parce que l'idée aussi de la ferme Capri, c'est de vraiment s'intégrer dans les quartiers nord et dans les cités autour. Et donc, il y a plusieurs associations du quartier qui vont participer. Il va y avoir un marché le matin, un atelier photographie l'après-midi, un atelier conte aussi pour les enfants, et le midi, un peu des stands de nourriture.
Donc l'idée, c'est d'y inclure les habitants et que dans Marseille, il y ait comme ça plein d'îlots, de fermes, que chaque quartier puisse y trouver un lieu de végétalisation, un lieu... C'est pas encore le cas, mais c'est en voie d'eux et c'est un des événements qui permettent de montrer qu'il y a de l'action à ce niveau-là dans l'agriculture urbaine et aussi qu'il y a des acteurs qui se saisissent de plein de thématiques, donc sur l'alimentation en circuit court, mais aussi biodiversité, sur les déchets, sur la permaculture par exemple. Pourquoi toutes ces thématiques, ça mérite d'être souligné aujourd'hui, maintenant, dans un événement grand public?
Parce que je pense que la question de la transition écologique des villes est plus prenante que jamais. On l'a vu ces derniers temps, on en parle de plus en plus, pas assez peut-être. Mais c'est ce type d'événement, je pense que c'est une bonne manière de sensibiliser en douceur à ces thématiques, à des publics qui sont soit déjà un peu sensibles à ça, mais aussi et surtout à plus large échelle, à des gens un peu plus éloignés des thématiques.
Et alors, est-ce que vous faites vraiment pour sensibiliser toutes ces personnes? Donc, il y a la ferme Capri qui s'installe à un autre endroit. C'est pareil, le bouillon de noix. Comment est-ce que vous faites pour fédérer les gens autour? Donc, ingrédients, j'imagine que c'est un des outils pour aller voir les habitants et pas attendre, en fait, qu'ils viennent à vous.
Mais du coup, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, on fait beaucoup d'ateliers de quartier, du coup, qui sont gratuits. Et dans ces moments-là, en fait, on se met carrément dans la rue de l'Arc. Donc on sort, nous on a une cuisine mobile, itinérante, ça veut dire qu'on a tout le nécessaire pour cuisiner et on peut l'amener quasiment où on veut. Donc en fait, ce qu'on fait quand on fait des ateliers de rue, c'est qu'on sort des tables, on sort des ustensiles de cuisine, on sort des plaques pour réchauffer, pour cuisiner. Et en fait, on invite tout le quartier à venir ou cuisiner. Et après, ça se transforme en repas partagé. Ou alors, si les gens n'ont pas envie de cuisiner, de venir peut-être apporter une contribution alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les voit cuisiner. Il y en a qui préfèrent rester un peu, qui veulent pas, peut-être qui veulent garder secret leur recette, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce concept-là de repas de quartier, ça permet...
d'avoir une visibilité.
Ouais. Okay.
Donc l'idée, c'est de montrer aussi les ateliers et de faire ça dans la rue, de partout à Marseille. Mmh. Qu'est-ce que c'est vos attentes pour cette ville-là, Marseille, vos attentes de changement pour peut-être prôner encore plus l'agriculture urbaine pour aller vers ça et aussi sur une transition écologique que vous commenciez à aborder?
Bah, moi je pense que c'est vraiment le fait que les acteurs, enfin, à la fois que la population marseillaise s'empare du sujet pour monter, parce que ça peut venir à la fois du niveau ascendant mais aussi du niveau descendant, et je pense que ça va être la convergence des deux qui va faire que Marseille va transitionner pour être plus vert. Et donc je pense qu'il faut que les citoyens s'emparent des sujets, que les associations comme le Bouillon de Noailles, la Cité de l'Agriculture et toutes les associations qui participent et les différents acteurs qui participent aux 48 heures continuent leurs actions de sensibilisation et que les pouvoirs publics s'emparent du sujet aussi.
Oui, tout à l'heure tu parlais de végétalisation par exemple. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la rue de l'Arc, mais c'est une des premières rues qui a été végétalisée à Marseille. Donc c'est une rue où il y a énormément de plantes, donc du coup ça fait respirer la rue, c'est beau à voir parce qu'il y a une diversité de plantes et je pense qu'il y a l'idéal, ce serait que plus de rues prennent en exemple ce type d'initiative, et peut-être aussi des jardins, peut-être plus d'espaces verts pour pouvoir faire des potagers publics pour que tout le monde ait accès à ce type d'alimentation.
Donc des initiatives portées par des citoyens comme la végétalisation et plus d'espaces verts et l'agriculture urbaine, donc une thématique qu'il faut avoir en tête, même si bien sûr elle ne permettra pas de nourrir tous les habitants et toute la ville. Mais en tout cas, elle a les avantages de fédérer les citadins ensemble, de reconnecter aussi, de créer des liens. Et puis d'essayer d'imaginer une alimentation où il n'y a pas besoin de beaucoup de transport pour venir jusqu'à nous. Et puis mettre en lumière aussi tous les métiers de l'agriculture, parce que c'est des métiers qui peuvent... des métiers d'avenir aussi.
Bien sûr. Hein.
Oui, en ville, je pense qu'il y a cette problématique de déconnexion. Et donc, les fermes urbaines, comme tu le disais, la question, ce n'est pas forcément de nourrir tout Marseille, mais c'est vraiment justement de sensibiliser et de un peu remettre les mains dans la terre, comme on dit.
On l'a vu avec la crise aussi sanitaire, le sujet est revenu beaucoup au centre, l'alimentation, quoi. C'est-à-dire peut-être faire soi-même pousser ses tomates, ces herbes, ces choses comme ça, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau.
Et des graines à aller prendre aussi, il y a des trocs de plantes, des graines pendant les 48 heures, échange de graines pendant les 48 heures de l'agriculture urbaine. Alors Chloé, Pascal, vous organisez des ateliers, vous organisez ces temps forts des 48 heures, mais si vous étiez seulement participant ou participante, si vous changiez votre casquette, et qu'à votre tour, vous pouviez déambuler en fonction de ces ateliers, à quel événement en particulier vous auriez envie d'assister? C'est dur, hein.
C'est dur de choisir.
C'est dur de choisir.
Un seul en particulier ?
Oui, un ou deux. Allez,
un
deux.
Un ou deux ? Bon, c'est généreux. moi, j'aimerais bien aller, par exemple, dans un tiers-lieu qui s'appelle Toili, qui n'a pas encore ouvert et qui va ouvrir dans le quartier de Belzunce. Parce que c'est quelque chose de tout nouveau et il va y avoir pas mal d'ateliers donc de végétalisation de l'espace. Donc je pense que ça va être intéressant de voir l'émergence d'un nouveau lieu qui s'empare aussi de ces questions écologiques. Et sinon, après moi j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est au niveau alimentaire. Donc par exemple il y a pas mal de brassins collectifs qui vont être organisés avec les différentes brasseries de la ville, que ce soit à Coco Velten, à la brasserie de la Plaine. Donc je pense que j'irai faire un tour de ce côté-là aussi.
Pour concevoir sa propre bière.
Pour comprendre le processus de brassage.
De fabrication, voilà, exactement. Artisanale. J'en profite justement pour saluer Isabelle, qui est une chroniqueuse chronique, on va dire, qui vient une fois par mois, et qui, la semaine dernière, a fait une chronique sur cagolisation brassicole et qui explique justement ce processus de fabrication. Vous pouvez retrouver la chronique sur fréquencemistral.com. Et alors, toi, Pascal, si tu devais assister à un de ces ateliers...
Je rebondis sur les brassins, qui est aussi une technique de fermentation, du coup. Et moi, si je devais choisir, j'ai vu que Pharmavert propose une promenade et rencontre sensible des arbres du parc. Je trouve que ça peut être sympa, parce que on perd un peu le contact avec les arbres quand on est vraiment ancré dans une ville et que... qu'on n'a pas forcément l'accès à un parc ou un jardin. Et je trouve ça assez sympa. Et sinon, comme deuxième option, j'irais bien voir ce que propose l'après-midi en termes d'après-midi jardinage, parce que je ne sais pas si vous situez le lieu.
C'est bien de le redire, ouais. Dites-nous.
Ouais. C'est dans le 14e, c'est à Sainte-Marthe,
ouais.
C'est ça. Et le lieu, il y a de la place, puisque c'est un ancien McDo, donc le parking n'est pas du tout utilisé. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment ils vont organiser l'espace pour pouvoir proposer du jardinage.
Du jardinage à côté d'un ancien McDo. Et de toute manière, là, il y a eu des exemples d'ateliers, de conférences... vous pouvez retrouver toute la programmation sur deux sites, à la fois le site national de www.les48heures.fr ou carrément sur le site de la Cité de l'Agriculture, cité-agri.fr. Merci d'être venu nous parler de ces 48 heures de l'agriculture urbaine et puis de ce que vous faites aussi au quotidien et le reste de l'année au-delà de ces 48 heures précises.